France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après la révélation camerounaise Emley Boum et les révélations de Romain Puertolas sur Dupont de Ligonnès la semaine dernière, émission que vous pouvez retrouver en podcast, balado-diffusion bien sûr. Voici une émission spéciale littérature et dessin à l'occasion notamment du Festival international de la BD d'Angoulême. Voici donc le sommaire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
C'est un roman majeur de la littérature belge qui vient d'être adapté en BD par un grand talent du dessin. Bernard Isler s'empare d'un roman de Georges Simenon avec la complicité de Jean-Luc Fromental et c'est un petit chef-d'œuvre. Nous serons tout à l'heure avec la pétillante dessinatrice britannique Posy Simons, auteure de romans graphiques et de livres pour la jeunesse. Elle vient de décrocher le Grand Prix de la ville d'Angoulême. On vous emmène aussi en voyage aujourd'hui du côté de Montréal dans un parc investi par les écureuils. La star de la BD québécoise Michel Rabagliati vous fera découvrir les lieux de son enfance. Entretien reportage exclusif dans une intimité rare. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. C'est donc le Festival international de la BD d'Angoulême qui se tient tout le week-end. Après Alexandre Astier, l'an passé, qui était venu dans la librairie francophone, c'est Thomas Bangalter, ex-membre de Daft Punk, qui est le président du jury. Bonjour Thomas Bangalter.
Bonjour Emmanuel.
Comment ça se passe cette présidence, Thomas, pour vous ?
C'est principalement beaucoup de lecture pour l'instant. Ça se passe bien. J'essaye de le faire de la manière la plus consciencieuse possible et d'essayer de prendre le temps vraiment de savourer la sélection, même si elle est très ample et nombreuse. Mais ça se résume principalement à lire depuis quelques semaines toute cette sélection.
Comment êtes-vous arrivé à cette collaboration au Festival de la BD d'Angoulême ? C'était une de vos envies ? On vous a contacté ? Comment ça s'est passé ?
C'est le festival qui m'a contacté par l'intermédiaire de Gaspard Noé, qui est le réalisateur pour lequel j'ai fait plusieurs musiques de films. Et ils m'ont proposé de participer au jury et ensuite d'en être le président. J'étais évidemment très touché, très honoré par cette demande et j'ai accepté avec plaisir parce que j'apprécie vraiment la bande dessinée j'étais un peu surpris parce que je suis pas le plus grand spécialiste bande dessinée, mais en même temps elle m'accompagne depuis mon enfance et mon adolescence et j'ai vraiment l'impression que elle a forgé une partie de ma personnalité. Donc c'est comme ça que ça s'est fait.
Alors c'est vrai qu'il y a une grande liberté visuelle dans la bande dessinée, une audace graphique qui autorise tout. Vous dites que ça a accompagné votre enfance. Quels sont les auteurs ou les albums que vous aimez par exemple ?
C'est vraiment peut-être l'humour et le second degré au départ qui ont été importants pour moi. Si je pense à un auteur comme Gottlieb, Marcel Gottlieb, ou des albums de Rubrique à Braque ou des Dingos Dossier, enfin des choses avec Goscinny que j'ai pu lire. Qui ont vraiment développé un second, un deuxième, un troisième, un quatrième degré comme ça. L'humour noir de Franquin, comme Idée Noire, la folie de Philippe Drouillet, enfin la bande dessinée forte comme ça à ce moment-là, qui ouvre et qui est connectée à l'imaginaire et qui indique un peu et qui donne des directions pour appréhender le monde. Et il y a quelque chose évidemment de très ludique dans la bande dessinée que j'ai pu retrouver aussi dans la musique en fait. J'ai l'impression que quand on fait de la musique ou quand on en écoute, on joue d'une certaine manière et c'est cet aspect, cette connexion avec l'enfance aussi qui me touche particulièrement, je pense, et qui continue de me toucher.
Alors c'est vrai que vous nous avez connecté aussi avec l'enfance, Thomas Bangalter. Vous avez travaillé avec Leiji Matsumoto pour Interstella 5555 qui mettait en image votre album culte Discovery. Toute une génération se souvient de ce dessin animé grand format sur le modèle d'Albator et votre musique était en parfaite symbiose. Musique et BD, c'est très compatible ça. Vous l'avez montré. Qu'est-ce que cela vous a apporté à cette époque il y a déjà 20 ans ?
C'était une expérience unique et assez extraordinaire finalement d'avoir été baigné dans l'univers de Leiji Matsumoto quand on était tout petit avec Guy Manuel de Rimpristo avec qui on a fait la musique et d'avoir l'idée à un moment de se dire ah tiens on, partons au Japon et essayons de le contacter. On avait un scénario en poche comme ça, d'une trame de l'histoire, mais de créer cette œuvre un peu hybride, comme une comédie musicale un peu sans dialogue, mais en reprenant la structure de l'album et avec ses différents chapitres. Donc, donc ensuite, voilà, moi j'ai fait à peu près une quinzaine ou une vingtaine de voyages presque tous les mois avec le Japon à l'époque. Mais j'ai d'excellents souvenirs finalement de cette aventure, finalement un peu extravagante, un peu hors norme, très ambitieuse, mais il y avait peut-être sur les 50 ou 100 personnes qui ont travaillé sur le film, il y avait une seule personne qui parlait à la fois anglais et japonais. Oui. Et c'est aussi ça, je pense, le dessin animé ou la bande dessinée, c'est la capacité, un peu comme la musique, c'est de pouvoir connecter des cultures très différentes avec finalement un ressenti commun d'une certaine manière.
Vous avez joué avec la fiction aussi grâce à Daft Punk, parce que Guy Manuel et vous, Thomas Bangalter, vous étiez masqués dans un univers de fiction comme des personnages de BD au final.
Oui, c'est vrai que j'essayais de me demander quel était peut-être un autre rapport avec la bande dessinée et ces personnages de robots qu'on a pu inventer et créer et finalement qui nous ont incarnés d'une certaine manière. C'est un peu des personnages de bande dessinée, comme le personnage de Batman, par exemple, où il n'y a pas de super pouvoir, en fait, mais on crée finalement un personnage et un monde un peu imaginaire, et on s'amuse avec une ligne fine entre la fiction et la réalité. Mais encore une fois, tout ça continue à être très ludique, et
c'est
assez proche de l'enfance quand on est avec ses jouets et qu'on s'amuse à s'inventer des histoires comme ça.
Oui, vous êtes sorti de l'enfance désormais, puisque vous avez décidé d'arrêter Daft Punk. Vous êtes passé à l'adolescence peut-être ?
Je sais pas. Moi, j'ai toujours un peu la tête dans la lune et dans les nuages. Et, voilà, c'était une époque et des personnages assez forts. On l'a fait avec beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur, mais tout en s'amusant énormément. Voilà.
Oui, ça se ressent.
On a fermé ce chapitre. Voilà.
Merci beaucoup Thomas Bangalter pour cet entretien dans la librairie francophone. Merci Thomas.
Merci beaucoup Emmanuel, merci.
Bon festival à vous, à très bientôt.
Merci, c'est gentil, à bientôt.
À bientôt, et voici nos libraires. Quatre libraires sont avec nous comme chaque semaine. Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard et fan de bande dessinée, n'est-ce pas Mathieu ?
Tout à fait.
Et ça tombe petit. Ça tombe bien, cette émission très graphique va vous plaire. Bonjour Nathalie Clairin.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe. Bonjour la Suisse, bonjour Claire Renaud.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève dans la librairie Atmosphère. Et enfin au Canada, c'est le retour d'Audrey Martel et de la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Tout va bien pour vous ?
Ça va super bien.
Vous êtes une habituée de l'émission maintenant.
Ah oui.
Vous étiez la petite nouvelle il y a quelques mois, aujourd'hui confirmée. Merci d'être avec nous, vous interviendrez tous les quatre au cours de cette émission. Et on vous emmène en voyage entre littérature et dessin avec notre premier invité, un prodige de la BD belge, sur cette musique d'un autre prodige, Serge Gainsbourg.
Viens petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des
clip, crack,
des,
bang,
des,
blanc,
et des...
Zip, shabam, pow, blop, whew.
Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait,
vlam,
ça fait,
splash,
et ça fait...
Stop,
ou bien,
bang,
ou parfois même...
Zip, shabam, pow, blop, whew.
Viens petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des...
Clip, crack,
des...
Bang,
des...
Blanc,
et des...
Zip, shabam, pow, blanc, whew.
Musique de circonstance. Bonjour Bernard Isler.
Bonjour.
Vous aimez Serge Gainsbourg, ce titre-là ?
J'adore. J'adore. C'est amusant parce que, en fait, c'est une vision de la bande dessinée qui date des années 60 et qui se réfère à la BD franco-belge, qui a quand même cette particularité de vouloir dessiner des bruits, par exemple.
C'est vrai.
Et donc, il en fait une chanson. Donc... Et c'est vrai que ce genre de choses n'existe plus en bande dessinée.
Non, c'est vrai.
Hein,
c'est vrai.
Hein.
Ça a disparu.
Maintenant,
un peu.
On dessine Simon et tout le problème est qu'il n'y a pas de bruit. Hein,
c'est une ambiance, on va y venir, voilà. Car l'essentiel chez Simenon, c'est l'ambiance. Voilà. Alors c'est un monument de la littérature belge signé Simenon que vous adaptez en BD en une centaine de pages. C'est d'une beauté absolue, vous êtes l'un des prodiges de la BD belge, comme je le disais, vous avez déjà adapté Baudelaire. Quelle est la part de liberté qui vous reste quand un texte est déjà écrit et surtout qu'il est connu par le public ?
Ce qui est formidable dans le livre qu'on m'a proposé, qui est « La neige était sale », c'est qu'il y avait cet espace de liberté, et que déjà, de toute façon, ce qui m'attire vers adapter un auteur de littérature, c'est d'abord parce que j'ai lu énormément quand j'étais très jeune. La littérature, c'est elle qui m'a donné envie de raconter des histoires de la même manière que le théâtre. Et il y a un moment donné où on comprend bien que le propre d'adapter un roman ou en BD, c'est la même chose qu'au cinéma, c'est comme faire une sculpture de la Joconde. Moi, je dois deviner qu'est-ce qu'il y a derrière la Joconde, qu'est-ce qu'elle regarde, quel est le décor, et garder ses côtés sfumetto. Et là, il y a un vrai travail d'adaptation, et c'est ça qui m'a passionné. C'est que, quelque part, quand on me demande de dessiner une atmosphère, ben, je vous le demande, comment est-ce qu'on et dessine voilà. une atmosphère ?
Je vais vous le demander tout à l'heure. Comment dessine-t-on une ambiance ? Alors, juste avant cela, c'est avec Jean-Luc Fromental que vous réalisez cet ouvrage. La neige était sale. C'est un roman de Georges Simenon, donc les romans durs chez Simenon, dits durs, ce sont des romans qui ne sont pas des Maigret, c'est ça ?
Et d'ailleurs, tant mieux, parce que j'ai toujours eu beaucoup plus de réticence vis-à-vis de Maigret que vis-à-vis des romans durs.
Je comprends.
J'ai vraiment découvert Simenon avec les romans durs, et j'ai même envie de dire, et c'est important, je trouve, j'ai découvert les Simenon dans les romans durs à travers le cinéma et les adaptations qu'ils ont faites. C'est eux qui m'ont donné envie de lire les livres, comme quoi le boulot qu'on fait, enfin peut-être, je l'espère, renvoyer au génie de Simenon.
Alors c'est un génie, effectivement, Simenon. Ouais. Il écrivait Les Maigret en 10 jours. Ouais. C'est son fils qui raconte ça. Et pour les romans durs, donc comme celui-ci, c'était 3 semaines. Et encore 3 semaines, c'est énorme.
Il se relisait.
Et oui. C'est
il se relisait. Il a écrit ça en 3 semaines et moi j'ai mis 2 ans. Oui. Vous imaginez la différence ? C'est ça une adaptation. Ça prend plus de temps que...
Oui, voilà. Mais c'est un roman particulier pour lui. Il a été compliqué à écrire et quand il le termine, il annonce à son éditeur « C'est mon meilleur roman ». Quel est le contexte, Bernard Isler ? Il y a son frère derrière.
Ouais, voilà, ça c'est l'histoire secrète qu'on devine. Et il est clair que... bon. Moi, je suis passé par Jean-Luc Fromental, de toute façon, et on a eu, je le dis, c'est rare, une complicité extraordinaire. Mais on ne s'est pas vu très souvent physiquement, mais il y a une complicité qui s'est établie au téléphone.
Et il m'a raconté l'histoire.
Et il m'a parlé de Simenon, de tout, de son frère, de sa mère, de la réputation qu'il a en Belgique, parce que voilà, il a une réputation qui ressemble un petit peu à celle d'Hergé, c'est-à-dire cette branche un peu floue de la période d'entre-guerres.
Alors il était ambigu pendant la guerre, Simenon, c'est ça qu'on lui reproche, et son frère, lui, a été un collabo.
Et voilà. Il y a quelque chose de spécifiquement belge dans la personnalité de Simenon qui ressemble à Hergé. C'est que Hergé crée un personnage qui est un peu... on ne sait pas très bien si c'est tout à fait un homme ou une femme. C'est un peu le belge parfait, transparent, innocent. Voilà. Et Tintin, il traverse l'histoire, les pays et tout. Et Simenon, il adopte un côté caméléon, où il va parcourir le monde aussi, et à chaque fois se mettre dans la peau.
C'est ça, avec des personnages qui ont des accointances finalement, parce qu'on retrouve un peu la même personnalité, en tout cas le même engagement moral, et les mêmes questionnements sur la vie. Ouais. Là, on a affaire à Franck, c'est un jeune homme de 18 ans, presque 19, qui fréquente les bars et les malfrats, qui trafique avec eux pendant une période occupée, justement, une période non déterminée, dans un lieu qui pourrait être la Belgique, la France, ou un pays de l'Est. Et il profite d'un système parallèle qui le met à l'abri des restrictions. Il couche avec les femmes qu'il veut, et puis un jour, malgré son jeune âge, tout ça, il tue un homme.
C'est ça qui est formidable dans le roman, c'est que c'est un gamin qui est supposé être séduisant, un gamin de 18 ans. Il a un comportement presque abject et incompréhensible. De la même manière que Hamlet, on se demande s'il est fou. Là, on ne comprend pas les motivations. Et le génie de Simenon, c'est qu'il tue un personnage à la 5e page et on s'en fout.
Ce Franck, c'est une petite frappe, une crapule, mais il a un passé compliqué, il est abandonné par ses parents. Quand il retrouve sa mère, elle tient une sorte de maison close. Tout est pervers dans son monde, et c'est peut-être pour ça qu'on s'attache à ce personnage. On va voir dans un instant ce qui va lui arriver juste après Nos Libraires. Les quatre ont lu votre ouvrage, Bernard Isler. On va commencer par le fan de bande dessinée Mathieu Colombe, pour la France.
Bon ben, sans étonnement, j'étais très impressionné. Comme vous l'avez dit, Bernard Isler, déjà vous avez su adapter votre trait à Simenon, et de manière magistrale. Et Fromental a effectivement su en tirer l'essence même du roman pour en faire, on va pas se mentir, un missile. Après, je tiens à prévenir le public qu'il y a une certaine violence verbale à laquelle on n'est plus vraiment habitué de nos jours et qui pourrait, hélas, bousculer certains lecteurs.
Ah bon ?
Mais à part ça, c'est fort, ça cogne dur. Et il faut utiliser quand même son cerveau pour lire et apprécier à sa juste valeur cette adaptation.
Il est prude maintenant, Mathieu, dis donc, parce que moi, j'ai pas trouvé ça si violent.
Oui, c'est pas moi, c'est les autres.
Dans le verbe, oui, bien sûr, toujours. Nathalie Clairin, pour la Belgique. Que voulez-vous dire à votre compatriote ?
Eh bien, écoutez, Emmanuel, moi, je veux dire, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est sublime.
Oui.
Voilà, chaque case...
Il
chaque
a eu peur. C'est pas bien, c'est pas bien.
C'est juste sublime. Chaque case, c'est une petite œuvre d'art. Alors, votre trait, Bernard Isler, il est tortueux. Il convient à la noirceur et à l'ironie de Simenon, la même façon qu'il convenait à l'univers de Baudelaire. Donc, et oui, une fois encore, ce sont deux génies qui se sont rencontrés. Et moi, j'attends déjà les albums suivants.
Effectivement, si vous n'avez pas lu Baudelaire, selon Isler, il faut y aller, c'est magistral. Juste avant de donner la parole à Claire, Bernard, les personnages décrits par Simenon sont des personnes sales ou salies. Et ils montrent ce contraste entre la noirceur humaine et la neige immaculée. La blancheur de la neige, ça revient souvent dans ce roman et donc dans votre bande dessinée.
J'ai reçu le bouquin dans une édition originale, la couverture était blanche et il y avait juste la neige était sale. Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de le faire, rien que sur le titre, parce que le titre était déjà une image, et que c'est vrai que c'est toute la question de l'innocence perdue, et que ce gamin est déjà foutu à la base, et il y a une forme de descente aux enfers qui en même temps est une forme de catharsis et de rédemption. C'est très très étrange, c'est un des rares romans de Simenon qui finit bien, et qui a un côté...
Enfin, qui finit bien...
Ouais,
on va pas dire la fin, mais...
Non, on veut pas raconter,
je suis pas vraiment d'accord avec vous, mais...
Je raconte ce que Jean-Luc m'a dit au départ.
Ah oui, d'accord, mais vous l'avez perçu
moi,
comment ?
Moi, je ne comprenais pas, et comme... Ouais. À un moment donné, j'ai lu des tas de Simenon, mais pas celui-là. Et donc, il m'envoie le livre. Sur le titre, je dis « Ok ». Et puis, je commence à le lire. Et à la moitié, je dis « Ok, je m'arrête, c'est bien ». Parce qu'il me disait tellement que la fin, c'était extraordinaire. Je dis « Je n'ai pas envie d'entrer en conflit avec ce que j'ai lu et le faire de manière la plus vierge possible. Et de le... Vraiment comme une innocence. Je suis
Et de découvrir
personnage.
La fin, finalement.
Voilà.
Ben, c'est ça.
Et c'est là que... Voilà.
Enfin... C'est là que...
Bah, c'est là qu'à la fin, c'est...
Oui, stop.
C'est voilà.
Stop. Allez, Claire Renaud pour la Suisse, qu'en pensez-vous ?
Alors moi, j'ai pas grand-chose à rajouter après Mathieu et Nathalie, mais c'est glauque, c'est dur, c'est horrible, l'ambiance est lourde, cet anti-héros est absolument antipathique pour moi, mais c'est tellement bien réussi parce qu'il y a quelque chose de cinématographique. Et je trouve que donc c'est un sujet lourd pour une BD tout à fait réussi, qui marquera le lecteur.
Oui, qui marquera le lecteur et le monde de la bande dessinée, j'en suis sûr. Audrey Martel, pour le Canada, vous connaissiez Bernard Isler déjà ?
Pas vraiment, et je connaissais Simenon de nom, mais je ne l'ai jamais lu. Toutefois, j'ai bien aimé l'adaptation. J'ai aucune idée si c'est fidèle à l'œuvre d'origine, mais j'ai aimé la narration au-dessus, les teintes grisâtres là, qui ajoutent à la mélancolie de l'histoire. Seul bémol, s'il faut en trouver un, j'ai un peu senti qu'on allait vite par moments sur certains aspects, comme si j'avais raté l'introduction, mais j'aurais peut-être dû commencer par le carnet explicatif là, qu'on retrouve en fin d'ouvrage.
Oui, avec le texte de Jean-Luc Fromental notamment, et c'est vrai que c'est l'un des romans les plus longs de Simenon, donc vous avez 100 pages, c'est déjà beaucoup pour une BD, mais il a fallu adapter forcément et sauter certains passages.
Absolument.
Alors Franck va se faire arrêter, trahi probablement par les siens, il sera torturé, interrogé, acculé. Par la fenêtre de sa cellule, il aperçoit une jeune femme qui s'occupe d'un bébé. Et c'est l'image la plus simple, celle-là, la plus pure possible, c'est son évasion. Presque sa rédemption.
C'est ça. Ce personnage se détruit et il s'accroche à une vision qu'on ne saura jamais s'il l'a inventée ou si elle est là. Toute la question chez Simenon, c'est que le diable, il est déguisé. Et donc la personne qui le torture, oui, il y a une crapule, et puis il y en a un autre, c'est presque son père. C'est une forme de maître d'école. Et c'est des gens tellement ordinaires. Ils sont tous ordinaires. Et il y a cette forme de fascination du mal, j'ai envie de dire, du mal ordinaire. Et dedans, il y a cette forme de regret de Sissi, qui est une petite, la voisine, qui est l'image de la pureté.
Oui, alors il pense à cette jeune femme aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'il a tout le temps ces contrastes chez Simenon, parce que dehors, les rues enneigées bordent un quartier résidentiel tranquille, en dehors de la prison. Mais à l'intérieur, c'est gris, c'est sommaire, c'est violent. La beauté face à la cruauté, c'est toute l'œuvre de Simenon. Ouais. Et c'est ça l'ambiance. On parlait d'ambiance tout à l'heure. L'essentiel chez Simenon, c'est l'ambiance.
Oui.
Comment avez-vous fait pour nous mettre dans cette ambiance, parce qu'on y est vraiment ?
Eh bien, c'est ça qui est passionnant. On rentre dans la chair de l'écriture. Et donc, c'est ça qui est d'ailleurs un des moteurs de faire une adaptation graphique d'un texte, c'est de rentrer de comment ça fonctionne, comment lui l'a montré, de démonter la mécanique en disant « Je suis obligé de trouver des métaphores de certaines choses. » Par exemple, il y a un moment donné où il y a ce personnage de Franck qui rêve d'un chat dans un arbre. Et ce chat va se retrouver dans le décor pour exprimer les liens entre les séquences.
Ça. Et avec la couleur aussi. Parce que vous alternez le noir et blanc, des petites touches de rouge,
J'étais
la lumière.
À Budapest et c'est ça qui m'a frappé. Il y avait du vert et du rose. Et c'est la ville d'un dictateur quand même. Et on sent la présence de l'occupation. Et le fait de mettre des textes hongrois qui donnent l'impression qu'on ne comprend pas, mais cette ville est cohérente et elle l'est.
Bon, tout ça reste en tout cas très mystérieux.
Oui,
c'est difficile à expliquer pour vous, c'est difficile à comprendre. Il suffit de lire, de se plonger dans votre bande dessinée et on est dans cette ambiance.
Oui.
Et Simenon aurait été fier de ça. Merci beaucoup Bernard.
Merci à vous.
Merci à vous. La neige est ça, elle est parue chez Dargo, c'est une BD qui donne envie de lire le roman de Simenon, et ça fait penser à Camus, on n'a pas parlé, mais il y a l'existentialisme de Camus avec Meursault qui est un personnage assez semblable. Merci Bernard, à suivre dans cette émission spéciale Littérature et Dessin, un reportage avec un grand nom de la BD canadienne, Michel Rabagliati nous a emmené dans le quartier de son enfance, nous allons y croiser des écureuils et vous raconter aussi son histoire très touchante. Ce sera après la chanteuse algérienne Swad Massi.
J't'ai barra ou fait d'achel. Elle a chelé d'achel ou ybekik. Qui m'a haouis nefem, mon qui t'el hal. Qui m'a haouil t'nar benar jali.
chanteuse Swad Massi avec Shta, extrait de son dernier album.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et on vous emmène en voyage, comme souvent dans cette émission, cap sur le Canada, que vous connaissez bien si vous êtes des fidèles de l'émission. Nous allons autour du parc Molson, vers le Mont-Royal, avec Michel Rabagliati, qui a publié un livre dessiné inspiré de sa vie qui fait beaucoup parler de lui au Québec. Nous sommes dans le parc Molson, dans le quartier de Rosemont. Nous dominons le parc Molson car nous sommes installés dans un kiosque qui est un peu surélevé. On a monté quelques marches et on est avec Michel Rabagliati. Bonjour Michel.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes né à Montréal, chacun le sait. Vous avez grandi dans ce quartier de Rosemont. Absolument. C'est le quartier de votre enfance où nous sommes là?
Oui, c'est le quartier de mon enfance. Moi j'étais tout le temps... Enfin, je me promenais toujours dans l'autobus qui était là, puis on marchait beaucoup dans le quartier. J'étais chez les scouts dans le quartier aussi.
Ah oui?
C'est un endroit que je fréquente depuis, c'est ça, de mon enfance, à bicyclette ou à pied, là. Ouais.
Et le kiosque existait déjà?
Oui, ça existait déjà. C'était kiosque à musique, là. Il y avait des orchestres. C'est vraiment un square à l'anglaise, là, avec le kiosque. C'est un beau parc, ouais.
Avec un plancher en bois?
Oui. Ouais, mais ça, c'est nouveau, ça.
Ah oui, c'est nouveau.
Ils l'ont refait.
Les barrières vertes qui entourent ce kiosque hexagonal.
Oui.
Alors, avec la série Paul, vous racontez votre enfance, Michel, votre jeunesse, votre vie et les quartiers de Montréal qui sont toujours très présents. Paul, c'est le gars de Montréal, comme vous. C'est vous d'ailleurs.
Moi, c'est ce que je dis souvent, mais Paul, c'est monsieur tout le monde, c'est monsieur un Montréalais, les deux mains dans les poches, un peu, qui explore son environnement immédiat. Hein. C'est ça un peu le fond de commerce, l'histoire de Paul. Un homme, je veux dire, à travers les années 60, 70, 80, 90, sur 60 ans, qui déambule en ville, qui, bon, puis il arrive des choses. C'est des histoires familiales, universelles. C'est une œuvre universelle d'ailleurs. C'est pour ça que je pense qu'il y a tant de traductions, c'est que les gens s'y retrouvent.
Oui, ça
part de quoi? De naissance, de vie, de travail, de deuil. Tout ça, c'est comme tout le monde peut s'identifier à ça. Ouais.
Et dans Paul à la campagne, on voit le quartier de Rosemont. Il y a une maison, d'ailleurs, que vous dessinez. Vous aimez bien dessiner les maisons, vous. On en a plein autour de nous, là.
Oui, ben, y en a une, d'ailleurs, qui est là-bas, qui est probablement le seul cottage unifamilial.
Ah bon? Venez, on va voir. Allez, oui. on va descendre de ce kiosque, parce que il fait un peu froid, quand même. On a plein d'écureuils partout.
Ah oui, ça, les Français aiment ça, les écureuils, je pense. Il y a quelque chose.
Il n'y a pas que les Français qui aiment les écureuils.
Je ne sais pas, mais quand les familles françaises arrivent,
oh, c'est vrai?
Oui, je ne sais pas. Je pense que les écureuils, ils sont plus gros, la queue plus.
Ils sont un peu massifs. Hein. J'avoue qu'ils sont costauds.
Oui, c'est vrai. Ils sont un peu épeurants. Des fois, ils sont en bande, ils sont 12.
Oui, c'est ça.
Il ne faut pas manger de chips ou de patates frites. Là. Ça, c'est l'enfer. Ils arrivent très vite.
Ils ne sont pas farouches du tout parce qu'on peut les approcher de très, très près.
Oui, oui. Ben, ils attendent la bouffe. Il y a beaucoup de gens qui les nourrissent. Puis bon, personne ne les chasse. Ils n'ont pas de prédateurs. Sont complètement libres.
C'est le paradis des écureuils,
ouais,
ici.
Mais nous autres, on les appelle quand même les rats à belle queue.
Oui, là, pareil qu'on les appelle des rats, les pauvres.
On ne les regarde pas de façon si tendre que ça, parce qu'on ne peut pas vraiment se reposer avec quoi que ce soit à manger. Là, on est cuit, il faut s'en aller. Là. Ils sont très, très gourmands.
La nature est très présente dans votre œuvre, Michel Rabagliati, comme dans votre nouveau livre, Rosalille, un livre différent. Ce n'est pas vraiment une bande dessinée, ce n'est pas vraiment un roman graphique, ce n'est pas un roman illustré, c'est un mélange de tout ça.
Ben, moi, j'appelle ça un roman illustré quand même, parce que c'est quand même un petit roman avec de la typo machine.
Ouais. Puis, attention, parce que
illustrations... on traverse. En fait, c'est des illustrations qui ne sont pas décoratives. Donc, les illustrations sont narratives, sont collées au texte. On enlève les images, ça ne fonctionne pas. En fait, le roman est incomplet. Ça nous prend des images, de la didascalie, ça nous prend de la description de décor.
Oui, puis le texte, c'est un peu comme la bulle, sauf qu'il n'y a pas la bulle.
Oui, exactement.
Et parfois, vous vous étalez un peu plus. Ça permet de raconter des choses, d'avoir un texte sur 2-3 pages.
Ben oui, ben là, en fait, j'ai profité justement de l'espace de la page. En fait, le phylactère qui n'est pas là. Ouais. Puis là, on peut bourrer, on peut parler, on a les coups des franges si on veut raconter plus en longueur. Je trouve que c'est un beau format pour le dialogue intérieur, les réflexions. Ça, en BD, on est un peu coincé quand on veut. Moi, là-dedans, il y a un hommage à mon père. père, je lui parle longuement. Oui. Bon, ça...
C'est très émouvant, d'ailleurs.
Je vous remercie. Ouais. Je le remercie dans une lettre, c'est bien simple, mais bon. On ne fait pas ça tous les jours.
Ouais, non, en tout cas, c'est très intense.
C'est ma seule lettre. C'est la seule lettre que je lui ai écrite comme ça, mais bon, malheureusement, il est mort.
Et vous découvrez qu'il a écrit un livre.
Oui, j'ai dit... Oui,
vous dites que c'est pas terrible.
Malheureusement. Mais non, mais tu sais, on dit, bon, ton père est mort, voici ce qu'il a laissé, un livre de 1200 pages. Oui. Bon, je lis ça, moi, j'étais très excité quand c'est arrivé dans le sac, donc c'est sa conjointe qui m'a donné ça. Ça s'appelle Walter, mon ami imaginaire. Je dis, bon, je vais me régaler, ça va être formidable, mais pas papa. En fait, il a commencé, il voulait faire un roman, puis comme j'explique dans le livre, c'est qu'il a pas eu vraiment les... Comme il a pas eu la patience non plus, puis la persévérance, puis bon, l'organisation pour le faire comme il faut. Fait qu'à un moment donné, il s'est dit, bon, ben, tout ce que j'ai envie, moi, c'est de taper à la dactylo, puis passer mes... Parce que je suis à la retraite, il y avait rien à foutre. Il passait ses journées comme ça, à décrire ses journées. Bon, il allait chercher sa femme à la pharmacie, ou je sais pas trop. Il raconte l'histoire du chat. Le chat est malade, on est allé chez le vétérinaire. C'est tout décousu comme ça. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, malheureusement.
Voilà, bon, vous retranscrivez quelques passages. Du coup, vous lui faites honneur parce que vous l'avez publié un peu.
Oui, oui, j'ai quand même.
C'est bien ça. Vous êtes un bon fils.
Oui, puis là-dedans, on voit qu'il s'intéresse à moi.
Ben oui.
Même un passage, je dis, ah, mon fils s'en va à Angoulême, c'est la mec de la BD, il connaît pas ça. Ben, il va aller signer chez Super Héros à Paris. C'est cute, là. Il est tout content de ce qui m'arrive avec ma nouvelle carrière de BD. C'est très charmant. On voit ici, justement.
Alors voilà, la maison, elle est là. Ça, cette maison, elle vous a inspiré. Ouais, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce qu'elle est séparée des autres.
Séparée des autres.
En fait, on a plein de maisons collées, mitoyennes, avec les escaliers extérieurs, typiques de Montréal et de l'Amérique en général.
Ça m'a toujours tué, d'ailleurs, les escaliers. Je ne comprends pas qui a inventé les escaliers extérieurs avec la glace et la neige. C'est complètement stupide. On voit ça en Louisiane, les escaliers. Mais ici, pourquoi les escaliers ne sont pas à l'intérieur? C'est probablement plus économique. Tu peux faire probablement des surfaces de vie plus grandes, mais tu mets l'escalier à l'extérieur. Mais là, c'est casse-gueule. Tout le monde se pète la gueule là-dessus.
Oui, c'est vrai.
C'est ça, Montréal, à la grandeur. Escalier de fer extérieur bourré de glace. Moi, je comprends pas. Enfin, je comprends pas.
Alors, cette maison-là, du coup, elle a un porche. Elle a quelques marches, quand même, pas l'escalier métallique comme
ça. En fait, ce qu'on appelle autour, c'est des plex, duplex, triplex, quadruplex. C'est ça qui a été prévu dans le plan original. Puis celle-là, ici, c'est un cottage sur deux étages. Je l'ai illustré dans Paul à la pêche. Alors, en fait, j'ai mis un de mes amis là-dedans. Il n'y a qu'une maison unifamiliale. C'est tous des appartements un par-dessus l'autre. Ouais.
Alors, vous allez sur une île du Saint-Laurent avec Rose, votre fille, dans une petite maison, dans le dernier livre.
Oui.
Vous partez pour des vacances, en quelque sorte, quelques jours de vacances, en 2017. Il y a des maisons là aussi, et on voit votre attachement au lieu de vie.
Oui,
on a l'impression, Michel Rabagliati, que dans Paul, dans tout ce que vous faites, la maison est centrale. C'est le lieu de vie qui vous rassure un peu.
Oui, c'est une bonne remarque, en effet, puis je crois que... Tout le monde remarque le soin que je mets dans les maisons. C'est très, très soigné.
Oui.
C'est brique par brique, c'est pareil. Par exemple, celle-ci, les colonnes rondes sont exactement pareilles. La petite décoration en haut. J'adore dessiner les maisons. Par contre, je déteste dessiner les autos. Si vous êtes attentif, dans mes VD, c'est toutes des Toyota grises berlines.
Oui.
Quatre portes, j'en ai rien à foutre.
Elles sont rectangulaires. Oui. J'osais pas dire, mais c'est vrai que les voitures... Bon.
Non, je mets pas d'effort là-dessus. C'est toujours la même. La berline, quatre portes, sauf quand j'ai vraiment besoin d'une voiture spéciale. Spécial, mais sinon, c'est tout pareil. C'est tout ce genre de voiture plate, là.
Et de Montréal, on va partir en Belgique avec Nathalie Clairin, qui a lu Rosalie, Nathalie.
Oui, Emmanuel, écoutez, il sort tant de douceur, de délicatesse, de minutie aussi de son crayon. Alors ce Paul, on a juste envie de le prendre dans les bras. On est au creux de l'intime, on est tout près de cœur cabossé, mais c'est tout en zénitude et réconfort. Alors Emmanuel, je me disais un peu, c'est l'effet d'une confiture maison sur une tranche de pain encore chaud.
Belle image. Claire Renaud, êtes-vous d'accord ?
Tout à fait. Alors là, on plonge dans un univers tendre et poétique et les dessins, je les ai trouvés absolument magnifiques. Et avec son humour et sa subtilité, il nous donne de l'espoir, de la douceur pour tous les moments que nous devons affronter, qui sont difficiles dans nos vies. Pour moi, c'est une bouffée d'air frais.
Merci la Suisse, merci Claire. Audrey Martel au Canada, la voisine de l'étape.
Ouais, oui, c'est un superbe livre, c'est touchant, c'est intelligent, ça donne envie de s'arrêter, de respirer un grand coup l'air du fleuve puis de passer du temps en famille. La mise en page donne beaucoup d'espace aux illustrations puis ça nous donne l'impression de mieux respirer justement, c'est apaisant.
on va continuer dans ce parc, on va longer ce parc Michel Rabagliati, parce qu'il y a un cinéma que vous aimez beaucoup, un cinéma de quartier. Il y en a de moins en moins des cinémas de quartier. Et vous avez un côté militant dans ce domaine-là. Le temps d'y aller, on va parler de ce livre, parce qu'effectivement, il y a énormément de réflexions sur la vie, Michel. Vous voyez vieillir dans vos livres, et là encore, vous faites allusion au deuil du cheveu, par exemple.
Oui, le deuil du cheveu. Non, mais c'est vrai, c'est comme dans la vie d'un homme, j'avoue, vous avez une magnifique chevelure, mais merci, quand on est... quand on se regarde dans le miroir, on commence à perdre ses cheveux, c'est comme, merde, c'est pas drôle. Je pensais justement à ça, il y a 5 minutes, on parle pas souvent en fait, la calvitie, c'est un peu rigolo, hein. Oh, c'est un chauve, on trouve ça drôle, mais quand même, pour moi, c'est quand même un gros coup, là. Les cheveux reviendront pas, il y en a plus sur le dessus, j'avoue que c'est décevant.
Des petits moments de bonheur, Michel Rabagliati, c'est quand vous voyez un cinéma comme celui-ci.
Oh non, ça, oui.
Juste en face de nous, un cinéma de quartier, c'est incroyable parce qu'il y en a effectivement de moins en moins, que ce soit au Canada, en Suisse, en Belgique, en France, partout. Et là, on a le cinéma d'auteur, le cinéma de quartier dans un vieux bâtiment.
Ouais. Ça, c'est le bijou du quartier, c'est presque le bijou de la ville, j'avoue, parce que le cinéma Beaubien, bon, il y a plusieurs années, il y en avait beaucoup. Il y avait... En fait, le cinéma Beaubien, ça s'appelait le cinéma Dauphin, avant, le Dauphin, puis ça faisait partie d'une série, il y avait l'Élysée aussi, des noms très parisiens, comme ça, très français, le Versailles, à Anjou, le Jean Talon, des cinémas comme ça, avec des consonances françaises. Mais ça a changé il y a quelques années. Mais ça a été récupéré. En 2001, ça, c'était près de la faillite, la communauté s'est mobilisée, ils l'ont sauvé, c'est devenu une OSB maintenant, puis tout le monde est ravi d'avoir ce cinéma-là.
Alors là, c'est étonnant parce que les lettres sont inscrites à l'ancienne. Vous savez, sur un panneau blanc, où on pose les lettres une par une, et autour, il y a des éventails roses. C'est très kitsch.
c'est un peu kitsch.
Vraiment dans son jus, comme on dit.
Oui, c'est très beau. Moi, j'aime bien ça. Ils ont rajouté une coupe de salle plus petite pour plus de projections. J'adore cet endroit. Moi, j'y vais toutes les semaines. C'est pas... J'ai une carte d'abonnement. C'est là qu'on peut voir des films qu'on voit pas nulle part là, sur les blockbusters.
Un enfant passe avec une petite voiture à pédale.
Ces trois pins-là, c'est les pins noirs, sont là depuis toujours, sont rendus magnifiques. Le pin est mon arbre préféré. J'avoue, j'ai un faible. Oh, quand j'attends les films, souvent je suis ici, je regarde les pins. Pour moi, c'est spectaculaire, les pins noirs comme ça, là, je les trouve vraiment magnifiques.
Les écureuils qui se battent au pied du pin, justement.
Vous voyez, il y en a trois, déjà juste trois. Ouais. On en rajoute 5, puis on commence à paniquer. Il y en a 3 autres, là.
Vous aviez peur des écureuils quand vous étiez enfant dans ce parc?
Moi, j'ai peur des écureuils quand ils sont en groupe. Parce que ils ont l'air des zombies, puis des fois, on dirait qu'ils peuvent attaquer, là, parce qu'ils sont en force, puis ils sont culottés, vous avez remarqué, ils bougent pas.
Ils bougent pas, on est juste à côté, là, il y en a un à 1 mètre de nous.
Des fois, il faut claquer des mains, bye, va-t'en, là, parce que je veux continuer à manger mon croissant tranquille.
Alors, vous racontez aussi le basculement soudain de votre vie. Tout est parti en vrille, à un moment, pour vous, au milieu de la cinquantaine. Et votre vie d'artiste... Votre vie publique avec les voyages, les rencontres, la vie à grande vitesse, en fait, cela vous questionne. Parce que ce moment de transition vers l'âge de 54-55 ans, il a été compliqué à vivre. Et vous dites à quoi bon tout ça?
Comme je dis dans le livre, quel quinquennal de merde, parce que mon couple s'est en allé à... je me suis séparé après 30 ans de mariage. Beaucoup de choses sont arrivées après ça. Notre fille est partie vivre en Angleterre, mes parents sont morts un après l'autre, ma mère, mon père. Fait que c'est beaucoup de deuil, le boum, 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 des claques à la gueule, comme on dit. Des fois, c'est difficile à vivre, puis comme je suis pas si solide, j'ai eu de la difficulté ces années-là à vivre.
Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer, ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera. Je m'accroche les pieds ici-bas.
On a une sculpture incroyable, je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est tout en métal.
Elle est de qui?
C'est un enchevêtrement de pièces de métal argentées.
C'est de l'alum, par exemple, ici, de l'aluminium, ici au Québec. Ouais, c'est une de nos matières premières courantes.
Bon, merci beaucoup, Michel Rabagliati. J'étais ravi de vous trouver comme ça dans le terroir de votre enfance, le quartier de votre enfance. De venir chez vous, c'est un grand plaisir, plutôt que d'être en studio ensemble. On s'est tellement vu en studio. Rosa Lille est parue à la Pastèque, au Canada, comme en Europe. C'est ça?
Exactement.
Merci beaucoup, Michel.
Merci, Emmanuel.
Merci, à bientôt. Yes.
suivre les coups de gueule et coups de cœur des libraires et le Grand Prix d'Angoulême, Posy Simons en duplex de Londres. Ce sera après le nouveau titre d'Alyosha Schneider qui nous emmène lui aussi en voyage. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Ça suffit de s'attendre. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement.
Le franco-canadien Alyosha Schneider avec Ensemble.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Allez, la chronique des libraires, première partie avec un coup de gueule en France, Mathieu Colombe.
Oui, alors on va parler de Lolita, Petites Pensées et Marguerite chez Bayard Jeunesse. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bouquin avec des petites histoires qui sont faites pour apprendre un petit peu la vie avec donc Lolita, qui est une vache fort sympathique. Et c'est dans l'idée, c'est de faire un petit truc d'apprentissage de manière un peu décalée. Et c'est là qu'est le problème, c'est sur le dosage du décalage. C'est-à-dire que il y a des moments, il arrive des événements, on ne sait pas si c'est des chutes ou des gags, et en fait, ça en devient purement gênant. Mais gênant, gênant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si l'enfant pourra être capable de comprendre ce qui se passe, s'il n'y aura pas un problème, si ça va pas, voilà. Et donc, du coup, ça ne marche pas.
Un livre bizarre pour les enfants, donc, qui s'appelle Lolita, Petite Pensée et Marguerite, aux éditions Bayard Jeunesse. Merci Mathieu. Un coup de cœur en Suisse, Claire Renaud.
Ah, moi j'ai un magnifique coup de cœur. Ouais. De Ella Maillard, sur Ella Maillard, pardon, L'intrépide femme du globe, de Gwenaëlla Bolivier aux éditions Paulsen. Alors, c'est un livre qui présente toutes les facettes de cette aventurière hors norme, parce que figurez-vous qu'elle n'a pas été que aventurière, elle a fait des photos, photographe, exploratrice, navigatrice et sportive de haut niveau. Et quand elle découvre l'Iran et l'Afghanistan avec Anne-Marie Schwarzenbach, elle devient reporter. Et je trouve que ces reportages, ils font écho à notre actualité. Bref, pour moi, c'est un indispensable pour une femme absolument extraordinaire.
Parfait, c'est aux éditions Paulsen. Merci Claire.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et nous allons rejoindre Posy Simons depuis Londres. Bonjour Posy Simons.
Bonjour.
Vous venez de... Bien. Ça va, merci, et vous?
Eh oui, pas mal.
Alors effectivement, pas mal, parce que vous venez de recevoir le Grand Prix de la ville d'Angoulême 2024. Toutes nos félicitations. Quelle est votre réaction, Posy?
C'était waouh. D'abord, c'était waouh. J'étais tout à fait époustouflée. Et puis, après ça, je suis ravie, tout à fait, parce que c'est un prix très important, si prestigieux. C'est extraordinaire.
Vous êtes dessinatrice de presse, Posy Simons, auteur de livres jeunesse, auteur de bandes dessinées. Le grand public vous connaît pour Gemma Bovary et Tamara Drew, tous deux adaptés au cinéma. Vous avez porté un regard contemporain sur des thèmes explorés par les grands auteurs classiques, à savoir Thomas Hardy, Gustave Flaubert, Charles Dickens. La société n'a pas tellement changé, selon vous, Posy Simons ?
Oui, d'une certaine façon, oui. Ça m'amusait avec Gemma Bovary de comparer une femme de nos jours avec une femme comme Madame Bovary, une femme qui gardait, il fallait qu'elle garde soucieusement sa réputation. Et pour Gemma, c'est pas un problème. Mais au même temps, de nos jours, il y a toujours les mêmes chaînes qui nous...
Les entraves, les mêmes entraves pour les femmes, c'est ça ?
Oui, c'est la beauté, le stéréotype de beauté, comment on est âgé et tout ça. Et pour Cassandra Dark, qui était un roman, au fond, il y a le conte de Noël, le chant de Noël de Charles Dickens. J'ai trouvé à Londres les mêmes problèmes que Dickens a trouvé il y a dans le 19e.
Quel genre de problème ?
Il y a des mendiants partout, il y a des sans-abri, des quartiers très riches et des quartiers très pauvres.
Oui, ça n'a pas beaucoup changé, ça, depuis la période de Dickens. C'est vrai que c'est toujours pareil, les mêmes douleurs, les mêmes travers de l'humanité.
Oui, c'est ça, malheureusement.
Je me souviens que vous aviez dit au micro de cette émission avoir de la sympathie pour les écrivains. Car écrire, dites-vous, peut être une occupation très solitaire, soumise à la menace de l'échec. Quand on fait une BD ou un roman graphique comme vous, c'est moins solitaire ? On est moins seul ?
Oui, c'est solitaire, vraiment. Quand on fait un roman graphique, c'est comme si on dessine un film, parce qu'on fait les mêmes choses. On fait le script, on est directeur, on fait la mise en scène, le dialogue, l'éclairage, les costumes, tout ça.
Alors c'est en travaillant avec le quotidien anglais The Guardian que vous apprenez à être réactive. C'est comme ça que vous devenez productive, Posy Simons, parce qu'il faut produire comme cela des dessins avec des textes tous les jours. Ça a été ça votre apprentissage ?
Oui, c'était ça, oui. Au début, c'était toujours des commandes du dernier moment, pas beaucoup de temps pour réfléchir. À cette époque, il faut aller au bureau pour prendre le texte, ce qu'on va faire, et puis aller au bureau vers 4 heures de l'après-midi pour remettre le dessin. Je travaille très vite à cette époque. Maintenant, malheureusement, je suis âgée et je suis un peu slow.
Un peu plus lente, oui, mais ça vous a aidé en tout cas.
Oui, plus lente.
Vous avez pu acquérir des réflexes aussi.
Oui, c'est comme ça.
Regarde-t-on le monde autrement quand on le dessine, Posy Simons ?
Pour moi, c'est important de faire des dessins un peu de l'actualité. Je veux bien décrire la société. J'ai toujours un petit carnet. Si je prends le bus, je fais des notes. Et heureusement, il y a des gens qui hurlent dans leur portable. Et donc, on entend des choses absolument palpitantes. Et quelquefois, des mots, surtout si c'était des adolescents, on entend des mots très intéressants.
Oui, ça vous aide pour vos histoires. Est-ce que vous l'adoucissez, le monde, quand vous le dessinez ? Est-ce que vous le rendez plus doux, plus acceptable ?
Non, pas tellement. Je faisais des albums pour enfants, bien sûr, c'est un peu plus doux.
Oui.
Pour le journal, pas du tout.
C'est l'inverse.
Oui, c'est... à cette époque, il n'y avait pas de mail. Et donc, j'ai reçu beaucoup de lettres des lecteurs.
Bon, merci beaucoup, Posy Simons. C'est ça aussi la liberté du dessinateur, de la dessinatrice, de dessiner le monde et puis d'avoir des remarques. Merci, Posy Simons.
Merci à vous. Merci bien.
Je rappelle que vous venez d'obtenir le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de votre œuvre, publiée en français en grande partie chez De Noël. Félicitations encore, Posy. À bientôt.
À très bientôt. Merci bien.
Merci à vous. Au revoir. Mais on passe à la chronique des libraires seconde partie en présence de Bernard Eisler, grand fan hein, de Posy Simons.
Total, parce que d'abord c'est l'idéal du lien entre la littérature et le dessin avec cette fraîcheur. Et en plus, c'est vrai, voilà, je lui ai donné un prix en Belgique, justement, de littérature, et je vote pour elle depuis 10 ans.
Oui, donc,
et enfin,
vous avez voté pour elle, là, cette année.
En plus, son éditeur est mon scénariste, donc oui, je rêvais qu'elle soit là et qu'on puisse fêter ensemble tout ça.
Voilà, car tous les auteurs votent pour ce Grand Prix de la ville d'Angoulême, et vous en faites partie, évidemment. Voilà. Merci, Bernard. Merci pour elle. En tout cas, un coup de cœur en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Alors moi, je suis tombée complètement sous le charme du roman « Sous la menace » de Vincent Almendros, qui est paru aux éditions de Minuit. Alors le personnage principal, il n'est pas facile à mettre en scène, puisqu'il s'agit d'un adolescent en crise, dans des circonstances familiales très difficiles. Mais c'est subtilement fait, et tout en sensualité, donc c'est simplement magnifique.
Bien, « Sous la menace » aux éditions de Minuit. Merci Nathalie. Un coup de gueule au Canada, Audrey Martel, pour finir.
J'ai lu Le Petit Prince de L.P. Sicard, le dernier titre paru dans la très populaire collection québécoise des contes interdits, qui, en fait, offre des relectures sanglantes des contes classiques. Et j'ai tout détesté de ce livre-là, Emmanuel. Bien sûr, un auteur a du talent. C'est d'autant plus dommage qu'il l'utilise dans un livre aussi prévisible que grossier. Le manque de profondeur des personnages et de leur motivation ne dégage que l'incohérence de l'histoire.
Bien, une adaptation du livre de Saint-Ex.
Ouais, à peu près.
À peu près, vaguement, de très loin. Bon, je cite pas, enfin le titre on le connaît, mais je cite pas l'auteur. Merci Audrey, merci beaucoup. Pour conclure, le son de l'outre-mer avec la chanteuse de jazz guadeloupéenne Corinne Pierre-Fanfan. De rêver, interprété par Corinne Pierre-Fanfan, originaire de la Guadeloupe. Et c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Laurent Baudouin, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter avec Audrey Carme et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, le grand voyage continue avec des découvertes et des romans à lire avant le printemps qui arrive à grands pas. Si, si. Bonne semaine à vous, bon week-end.